Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21, du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaëlle et je suis la maman d'Arthur et de Charles, qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire et m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence, mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. L'invitée de ce 15e épisode, c'est Carole. Vous la connaissez probablement déjà un peu grâce aux réseaux sociaux, mais en écoutant son témoignage, vous allez vous faire une meilleure idée de qui se cache vraiment derrière l'extraordinaire Marcel. Une maman tout d'abord, qui en voulant normaliser le handicap de son fils, a réussi à dédramatiser la trisomie 21. Ce qui, entre nous, vous le savez, n'est pas une mince affaire, quand on entend toujours plus de négatifs que de positifs. À travers son expérience personnelle, elle nous parle des capacités quand le monde entier s'époumonne sur les limites. Tout de suite, écoutons Carole nous parler de son histoire extraordinaire. Bonjour Carole, comment vas-tu ?
Ça va bien et toi Raphaël ?
Ça va super, merci. Donc c'est pas la première fois que t'es invitée pour parler de ton expérience personnelle de l'arrivée de la trisomie 21 dans ta vie. Alors je suis très heureuse que t'aies accepté de témoigner encore une fois.
Franchement avec grand plaisir, c'est la première fois que je fais un podcast vraiment plus axé vraiment trisomie 21, donc c'est cool.
Super. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Ok, alors je m'appelle Carole, je suis sur la fin de ma 37e année. Enfin non, sur la fin de ma 38e, oh je suis nulle, bref. J'habite à Lorient depuis un an et demi avec Sylvain et nous avons trois enfants. Donc la petite dernière, c'est Colette, elle a 16-17 mois. Ensuite, il y a Basile qui va sur ses 5 ans et l'extraordinaire personne, c'est donc Marcel. Il a un petit peu plus de 7 ans et donc il est porteur de trisomie 21.
Est-ce que tu peux te replonger donc 7 ans en arrière et nous parler un peu de comment tu as découvert sa trisomie 21 ?
Alors, contrairement à certaines personnes, nous, on ne l'a pas découvert pendant la grossesse. Même si le triple test n'était pas fifou à l'époque, en 2015, en fait, on n'était pas alerté s'il n'y avait pas un risque en dessous de 1 sur 250. Et là, pour le coup, j'étais à 1 sur 457. Un an plus tard, on me proposait le DPNI. Mais voilà, donc en l'occurrence, là, tout allait bien, Marcel grandissait bien, moi j'allais bien, même si j'aime pas trop être enceinte, voilà, tout allait très bien. Et 5 semaines avant le terme, en fait, j'ai eu des contractions d'un coup, perte des os, direction à la maternité pour accoucher à peine 2 heures plus tard.
Ah oui, rapide.
Très rapide et surprenant, parce que vraiment, il restait normalement encore un bon mois avant la date d'accouchement, donc j'étais pas prête, j'avais pas de valise de maternité, j'étais en pleine baby shower avec mes copines, enfin vraiment le truc improbable.
Comme dans les films.
Exactement, on verrait ça dans un film, limite on se dirait c'est gros franchement. Et puis ce côté un petit peu surréaliste a continué, hein, puisqu'en fait dès que j'ai eu Marcel dans les bras, je me dis oh, c'est quand même très très bizarre ce truc. L'impression d'être dans un rêve et puis vite un cauchemar parce qu'en fait très rapidement avec Sylvain on se dit c'est quand même Renan, remets lui son bonnet, je trouve que ses oreilles là, il avait les oreilles ourlées, c'est quand même un signe, j'aime pas trop, remets son bonnet. Et puis après c'était mais je le vois pas, il est comment, je pense qu'en fait très vite au fond de nous on a été inquiets. Et très rapidement, c'est le mot trisomie 21 qui est venu à notre esprit et à nos bouches, entre nous d'abord. Et là, quand même, si on regarde ces petits yeux, on dirait un... Alors à l'époque, on disait un trisomique, chose qu'on ne dit plus maintenant. Maintenant, on dit une personne porteuse de trisomie 21. C'est plus long, mais c'est d'abord une personne, en fait. Voilà, c'est des choses qu'on apprend. Et maintenant, de manière générale, c'est vrai qu'on fait plus attention aux termes qu'on utilise, même pour les autres handicaps ou maladies. Et puis, jusqu'au moment, en fait, où il y a une infirmière qui nous dit « Mais est-ce que vous voulez que je fasse revenir la pédiatre ?» Et puis, là, tout de suite, coup de stress. Donc, on a dit oui. Et la pédiatre est revenue quelques minutes après. On était assis au bord du lit. Et là, elle nous a dit « Bah, écoutez, oui, nous aussi, on a les mêmes suspicions que vous. On pense que Marcel a une trisomie 21. » Bah écoute, 7 ans plus tard, le fait d'y repenser, ça me serre encore la poitrine. Je sens que je tremble encore un peu, rien qu'à d'y penser. Ça restera un choc, hein, mais il me semble que tu en as parlé il n'y a pas longtemps dans un poste. On a beau digérer et accepter le handicap, bah ça reste un choc. Et ce serait un choc à vie, parce qu'on forcément, on s'y attend absolument pas. On a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, c'est incompréhensible. Tout allait bien pendant la grossesse. On est encore jeune, même si j'avais 30 ans. Enfin, voilà, ça...
Oui.
Il n'y avait pas de raison que ça tombe sur nous et sur lui. Waouh, le brouillard. Vraiment, quand elle nous a dit ça, je ne sais même plus si on l'écoutait, si on s'entendait. Franchement, j'ai eu l'impression d'avoir un poids énorme sur les épaules. Je me revois au bord du lit, là. Waouh, avec cette sensation de, bah, ok, c'est la fin du monde, quoi. C'est horrible, je sais pas, voilà, notre vie, elle est foutue. Comment on va faire maintenant? Et puis, donc, on a forcément beaucoup pleuré. Les parents, même s'il était 18h30, 19h, sont revenus à la maternité. Les visites étaient plus autorisées, mais dans des cas comme ça, autant te dire que la maternité a été flexible. Franchement, on a eu de la chance. Et je pense que ça nous a aidé aussi à partir d'un bon pied, c'est que dès le début, on a été bien entourés, et par la famille, et par la maternité, en fait. Enfin, vraiment, tout le personnel nous disait, mais franchement, ça se voit, vous l'aimez très fort, Marcel, il a de la chance d'être avec vous. Et en fait, ils nous ont mis en confiance aussi tout de suite. Et nos parents aussi, bien évidemment, qui étaient là. Et en fait, Marcel a été un petit peu le noyau entre nos quatre parents. Et voilà, c'était vraiment c'est devenu un petit peu le centre de la famille. Et c'est vrai que c'est comme ça que petit à petit, on a avancé, en fait, en se sentant entouré, soutenu. Et puis, en fait, on n'a pas réussi à trouver la bonne formulation, mais avec Sylvain, on disait, bah, écoute, je suis quand même content et contente que ça soit quelque chose qui se passe avec toi, en fait. On savait que l'un avec l'autre, ça irait, ouais, et on y arriverait.
Donc, tu trouves que cette épreuve, ça a renforcé ton couple?
Alors, je pense que ça l'a renforcé, même si après... Je pense que c'est assez fréquent dans les couples. Le cheminement ne se fait pas de la même façon et à la même vitesse pour les deux personnes. Sylvain, j'ai l'impression qu'il fallait qu'il soit peut-être fort un peu pour me soutenir, j'en sais rien. Et sauf qu'en fait, moi, après, c'est moi qui ai arrêté de bosser, c'est moi qui ai accompagné Marcel au rendez-vous, c'est moi qui le stimulais. Et du coup, c'est moi qui, finalement, dans le quotidien, ai accepté plus rapidement sa trisomie et l'ai intégrée. Et en fait, lui, quelques mois plus tard, je crois que c'était le premier été, Marcel avait 8-9 mois, et ben, j'ai eu l'impression qu'il faisait une dépression, en fait.
Ah et ouais.
On n'avait pas cheminé au même moment, et je le sentais vraiment très, très triste. Il avait peur de tout pour Marcel. Le moindre rayon de soleil, attention, il va avoir un coup de soleil. Attention, il faut qu'il dorme. Attention, ceci, attention, cela. Là, c'était à mon tour de lui dire, bah, écoute, Sylvain, là, je crois que ça ne te ferait pas de mal d'aller voir une psy. Moi, je l'avais fait quelques mois plus tôt. Et voilà. Et au final, non, dans le quotidien, ça n'a pas impacté négativement notre couple. C'est quand même beaucoup plus fréquent, les divorces, malheureusement, dans les situations où il y a un handicap dans la famille.
Alors oui, j'ai entendu dire ça, ouais. Sauf pour la trisomie 21.
Ah bon ?
C'est vrai que souvent, avec le handicap, ça peut séparer les couples.
Ouais.
Parce que justement, ils ne cheminent pas au même moment ou qu'ils ne voient pas la vie de la même façon avec le handicap. Pour la trisomie 21, c'est l'inverse.
Et c'est un handicap joyeux, finalement. C'est vrai que
peut-être.
C'est des enfants qui sont quand même, de manière générale, plus... Alors, en mettant de côté leur caractère de cochon, mais sinon, ils sont quand même plutôt expressifs, joyeux, coquins, câlins. Donc, c'est vrai que souvent, quand les gens sont peinés et tout, genre, mais franchement, pour moi, la trisomie 21, c'est un petit peu la Rolls-Royce du handicap.
J'ai entendu ça aussi. Mais je me rappelle que ça m'avait pas fait plaisir parce que c'était juste après l'annonce.
Ah oui.
Et puis, t'as pas envie d'avoir une Rolls-Royce du handicap, quoi.
C'est sûr, c'est sûr. Non, c'est plus avec l'expérience, bien évidemment, qu'on s'en rend compte. Et qu'on se dit, en fait, il y en a qui vivent des choses quand même beaucoup plus compliquées que nous, que ce soit dans la gestion du quotidien, dans les échanges qu'ils peuvent avoir avec leur enfant. Voilà, nous, de manière générale, je trouve que c'est quand même assez simple. Un petit rappel quand même quotidien de la trisomie, mais ça passe.
Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé facile, justement, et qu'est-ce qu'au contraire, tu as trouvé difficile pendant les premières années post-diagnostic?
Qu'est-ce que j'ai trouvé facile? En fait, j'ai trouvé... Donc, c'était mon premier enfant, mais j'ai trouvé facile, ou comme si c'était inné, en tout cas, d'être maman. Peut-être que, en plus d'être une maman, une maman hyper investie, j'ai trouvé ça facile, ce rôle, et en tout cas, c'est vraiment un rôle qui m'épanouit et qui m'a révélé presque. Mais c'était pas facile quand même de se dire, mince, il va falloir que je réduise mon temps de travail, il va falloir que je trouve tel et tel professionnel, il va falloir que ça colle avec les jours où je bosse ou des jours où je bosse pas. Donc, il y a quand même ce truc de logistique, et puis de savoir aussi où trouver la bonne information. Ça, c'est un truc, je crois que 7 ans plus tard, c'est toujours le cas. Donc, heureusement que c'est un handicap répandu et qu'il y a plein de parents concernés, parce qu'en fait, c'est grâce, je trouve, à l'échange qu'on peut avoir avec les autres parents, que bah, finalement on avance, on dit ah oui, donc là en fait dès 2 mois je peux prendre rendez-vous chez le dentiste, ah d'accord, ok, ah là il faut déjà que je fasse de la kiné, ah là il faut déjà que je fasse ci, fasse ça, et toi t'as entendu parler d'un orthophoniste, oui c'est qui, c'est quoi, parce que sinon je, là comme ça je t'avoue que je sais même plus si, comment on a eu des informations si ce n'est par les parents quoi.
Et oui, parce qu'en fait, à la maternité, ils te donnent pas un livret spécial trisomie 21. Voilà, faut faire ça, ça, ça.
Ouais. Je me demande si l'association M21 n'a pas... ou c'est pas un projet en cours.
Je sais pas si c'est l'association M21. Je crois que c'était un projet étudiant.
D'accord.
Mais j'en ai entendu parler. Donc, je crois que c'est un projet.
Ben, c'est bien. Après, il y a plein de parents qui ont cette volonté aussi. Et c'est pareil, au début, on a une niaque, je trouve, incroyable pour faire des actions et tout ça. Enfin... je sais qu'on a mené mais plein d'actions de sensibilisation, de récolte d'argent, de trucs, de machin. Et en fait, je pense que c'est aussi un, enfin, dans mon cas, c'était aussi un moyen d'accepter le handicap, c'est de me dire, bah, je me bats à fond pour Marcel, pour les autres. Et puis en fait, après, bah, c'est devenu tellement mon quotidien que maintenant, j'ai même presque plus envie spécialement de faire des actions pour la trisomie 21. Ça peut paraître maladroit ce que je dis, mais c'est plus dans le sens où, bah, c'est normal, quoi. Oui, il a une trisomie 21
et alors ?
Ouais, voilà, c'est ça. Et alors ?
Mais du coup, est-ce que t'as plus l'impression de devoir te battre ?
Ça, j'en ai bien conscience aussi. C'est que depuis le début, je trouve qu'on a la chance d'avoir la bonne maternité, la chance d'avoir la bonne crèche, la chance de tomber sur une première bonne école, en déménageant sur une deuxième bonne école. Et du coup, les choses se font quand même, pour nous, assez facilement et de manière assez fluide. Donc non, j'ai pas l'impression de mener un combat au quotidien. Il y a des périodes plus compliquées que d'autres parce que il y a les ESS à l'école, parce que on a envie de certaines choses, mais c'est pas possible. Enfin, mais de manière générale, non, j'ai pas l'impression de mener un combat. Après, c'est plus par le biais des réseaux sociaux le combat, on va dire. Mais de manière, je le fais de manière assez normale maintenant. C'est justement la normalisation de ce handicap et montrer que en fait, on peut. C'est pas parce que Marcel a une trisomie 21 qu'on peut pas avoir d'autres enfants après, qu'on peut pas déménager, qu'on peut pas profiter de la vie. Donc c'est plus dans ce sens-là de rendre le truc normal et dédramatiser ce handicap.
Et justement, avoir d'autres enfants non porteurs de trisomie 21 après Marcel, après ton premier, est-ce que tu trouves que ça a fait partie d'un éventuel apaisement pour toi ?
Alors, apaisement, j'étais déjà apaisée, mais en tout cas, c'est, je pense, à partir de la naissance de Basile, que j'ai eu plus de mal, oui, sur les réseaux sociaux, à ne parler que de la trisomie 21. Avant, c'était vraiment une publication pour expliquer un peu pourquoi Marcel allait chez le dentiste, un peu pourquoi il allait chez l'orthophoniste, pourquoi il avait vu un podologue. Et en fait, après, je me dis, bah ouais, mais mon quotidien, c'est aussi le fait d'avoir un enfant sans handicap. Et un peu de légèreté, ça me fait pas de mal aussi à moi-même. Et donc, ouais, je pense que ça m'a remis un pied dans le monde normal et ça fait du bien aussi. Ouais, c'est vrai. C'était toujours dit 3, tu vois. Et après coup, tu dis, mais c'est pas parce qu'on a dit 3 qu'on est obligé. Mais non, après, on a trouvé quand même notre petit rythme de croisière. On est bien, quoi, tu vois. Mais il y en a encore qui me disent, alors, un petit quatrième. Oh, calmos, déjà 3, je pense qu'on a...
pas mal.
Ah, c'est déjà beaucoup.
Est-ce que tu peux me citer des choses positives qui ont été rendues possibles dans ta vie grâce à Marcel et son chromosome supplémentaire ?
Alors, ne plus me soucier du lendemain, penser vraiment au présent, oser des choses, donc par exemple quitter son travail, se dire que certaines choses ne sont pas graves du tout, apprendre à relativiser, ne pas avoir honte, je sais pas, le ridicule déjà de base, je me disais ça ne tue pas. Mais là en fait, Marcel des fois il va se taper un délire, il va aller danser, tu vois, dans un restaurant, t'es là, ok, bah vas-y, je vais danser avec lui. Et donc voilà, ne pas trop faire attention au regard des autres.
Tu as un compte Instagram qui s'appelle l'extraordinaire Marcel et qui réunit aujourd'hui, je crois, 80 000 abonnés, c'est ça ?
Attends, je vérifie en même temps. Je crois que c'est moins que ça. Hein. Attends, c'est 79.
Ah, presque.
Mais en fait, j'ai commencé sur Facebook. Et ouais, en fait, j'ai pu quelques mois après Facebook, on m'a dit non, mais il y a Instagram qui existe. Alors, ça faisait déjà quelques années, mais l'informatique, tout ça, je suis pas calée. Hein. Et en fait, ouais, j'ai trouvé ça finalement rapidement plus fluide et plus sympathique.
Et est-ce que partager un bout de ta vie sur les réseaux sociaux, c'était une évidence au début ?
Absolument pas. J'avais un profil Facebook, enfin, je ne sais même plus comment on dit, Une page. Enfin, avec mon nom, tu vois, j'avais ça sur Facebook, mais je partageais rien du tout. Et puis surtout, à l'époque, je comprenais même pas les gens qui avaient des enfants et qui les mettaient sur les réseaux sociaux. Ouais. Je me disais, mais franchement, c'est bizarre. Pourquoi ça peut être dangereux et tout. Et puis, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Je me suis dit, mais en fait, parler de la trisomie, c'est bien, mais si j'ai personne pour illustrer mes propos, ça sert à rien. Et donc, effectivement, j'ai mis Marcel en photo. Mais c'était on a bien réfléchi avec Sylvain, on était d'accord, c'est vraiment quelque chose, on est d'accord tous les deux là-dessus. Et puis maintenant, si pendant une semaine, Marcel n'a pas envie que je le prenne en photo, ou Basile, ou Colette, Colette, elle s'en fiche un peu pour l'instant, mais je les force pas. Et c'est aussi l'avantage maintenant de plus ne parler que de la trisomie 21, c'est que je peux montrer aussi autre chose, tu vois. Mais pas de prise de tête, et puis le jour, ils voudront plus, et puis voilà quoi.
Oui, tout à fait.
On verra.
Pourquoi l'extraordinaire Marcel ?
Alors, ça, c'est dès la maternité, en fait. Ma mère, qui était instite dans l'école où elle était, ils accueillaient des enfants avec des problèmes d'audition. Donc, il y en avait qui étaient sourds, muets. Et donc, elle m'avait dit, mais en fait, ces enfants-là, on ne dit pas qu'ils sont différents. On dit qu'il y a les enfants ordinaires et les enfants extraordinaires. Je me suis dit, ouais, c'est bien ça, extraordinaire, c'est sympa. Et c'est resté, en fait, et je trouve ce mot en fait super joli. J'adore ce mot. Je me le suis fait tatouer sur le bras d'ailleurs, extraordinaire. Ah. Parce qu'il y a ce côté qui sort de l'ordinaire, qui surprend, et puis il y a un côté super héros aussi. Et donc l'extraordinaire Marcel, quoi, ça voilà. Et c'est vrai que c'est un nom qui est resté, nom de conte. Je me suis posé la question, hein, puisque justement je ne parlais plus que de Marcel, mais en fait c'est devenu un petit peu l'identité de toute la famille. Et moi, ce nom-là, je l'associe plus maintenant qu'à Marcel. C'est vraiment, c'est nous cinq, en fait. Nous sommes l'extraordinaire Marcel.
Et donc, il est extra et ouais. Il est aussi un peu célèbre. Je crois qu'il a déjà fait du mannequinat, qu'il a fait de la télé aussi.
En fait, il y a 3 ans maintenant, il a fait un shooting pour Petit Bateau. C'était vraiment trop, trop chouette. Et puis, pour ce qui est de la télé, alors, j'ai participé à quelques émissions et effectivement, il était soit sur le plateau avec moi, soit dans le reportage. Et là, on attend. Je crois que ça devrait sortir prochainement. Il y a déjà, c'était à la naissance de Colette, donc il y a 16-17 mois. Il a tourné pour une série française qui doit sortir sur Apple TV. Mais aucune nouvelle, ça se trouve, en plus, il est coupé au montage, hein, tu vois, on sait pas, on n'est pas abonnés, nous, à Apple TV, donc... donc ça se trouve, on va pas le voir. Mais je sais plus comment doit s'appeler la série, je crois que c'est Bruxelles, et ce serait une série en quelques épisodes seulement. Voilà, affaire à suivre. En tout cas, lui, il s'est éclaté. Alors, comme il avait moins de 6 ans, il pouvait tourner que 2 heures par jour, je crois, et il a dû être 3 jours sur le tournage.
Mais du coup, comment ça s'est mis en place et pourquoi, en fait, c'était important à tes yeux de lui faire ça ?
C'est pas du tout important, c'est le pur hasard. On a dû m'envoyer le casting sur les réseaux que j'ai partagé. Et en fait, du coup, la directrice de casting a fait « Ah, ça tombe bien, je pensais à vous, justement. » Et c'est vrai que Marcel collait en tout point avec le descriptif. Il fallait un petit garçon de 5-6 ans, porteur de trisomie 21, blond aux yeux clairs, je crois. Ah ouais, ok. Et par contre, quand ils m'ont envoyé au début le dialogue, parce que c'était un dialogue, alors juste pour info, hein, que ce soit Marcel ou un autre avec une trisomie, à cet âge-là, en général, faire des phrases complètes, ça va pas être possible. Et en fait, il me dit, oh, mais pas de souci, en vrai, ce qui compte, c'est juste son visage, l'échange qu'il peut avoir. Bon. Mais encore une fois, je t'ai dit, ça se trouve, il va être complètement coupé. Hein.
Surprise bientôt.
Voilà, c'est ça.
Extraordinaire Marcel, c'est aussi un livre donc, que tu as écrit, je ne sais plus, c'est ça. Quand est-ce qu'il est sorti ?
Il est sorti le 18 mars 2020. Ouais, non, pas de bol, mauvais timing. Mais en tout cas, une chouette expérience aussi. Alors pareil, ce n'était pas du tout prévu. Moi, j'écrivais donc déjà sur les réseaux sociaux. Puis, un an avant qu'on me contacte, je crois, je m'étais dit, tiens, je vais tout copier. Tout ce que j'ai déjà écrit, je vais faire un copier-coller sur Word, parce qu'on ne sait jamais, si un jour, je sais pas, mon compte est supprimé ou Instagram, ça disparaît, j'aimerais bien avoir une trace. En novembre 2018, décembre 2018, je ne sais plus, c'est Flammarion qui m'a contactée en me disant, écoutez, j'aime beaucoup la façon dont vous parlez de votre quotidien avec Marcel, j'aimerais vous rencontrer. Et puis c'est en cliquant sur le nom de la personne, je me dis, oh, éditrice sur Flammarion, attention, je prends mon clavier, j'écris ça bien. Et en fait, c'était chouette parce que comme j'avais déjà des textes, on a pu partir de là. Donc, j'ai été aiguillée. Là, on m'a dit, écoute, ça, tu condenses. Ça, il faut que tu développes. Là, il faut qu'on ait ton point de vue à toi. Enfin, et donc, sur plusieurs, presque un an, entre le premier échange et la fin de l'écriture, ça a mis un an. Et non, c'était vraiment chouette. Et en fait, quand je me suis rendu compte en écrivant, donc ça faisait que 3 ans et demi que Marcel était né, mais mon cerveau avait fait déjà abstraction de moments difficiles et douloureux, en fait. C'est en me replongeant, je me disais, mais attends, mais quand il est né, mais en fait, je ne l'ai pas eu dans les bras tout de suite, et c'est vrai qu'il y avait des messes basses, et ah ouais, donc en fait, et plein de trucs comme ça, et c'est... Donc c'était vraiment chouette, et non, un bon exutoire, et un bon exercice aussi, tout simplement, d'écriture, quoi.
Mais ouais. Donc, à la base, c'était pas du tout un projet.
Pas du tout.
C'est tout ce qui l'a rendu possible, quoi.
Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Et c'est ça, en fait, aussi, effectivement, quand je disais, vivre au jour le jour, et puis se laisser porter, choper les opportunités là où il y en a, profiter tant qu'on peut, et puis demain, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, et c'est pas grave, je ferai autre chose, tu vois.
Tout à fait.
On verra.
Aujourd'hui, donc, tu partages plus seulement autour de la trisomie 21, mais sur plein d'autres sujets. Et tu en as d'ailleurs même fait ton métier, ton quotidien. Ouais. Est-ce que ça t'arrive qu'on te reproche de gagner de l'argent grâce à la médiatisation de Marcel ?
Alors, au tout début, j'écrivais et je faisais comme si c'était Marcel qui parlait. Et puis justement, quand j'ai écrit mon livre, on m'a dit « Non, mais là, c'est pas Marcel qui parle, c'est toi qui te dévoiles. » Et en fait, j'ai pu réussir après sur les réseaux sociaux à faire parler Marcel. J'avais repris le contrôle presque, si on veut, tu vois, de notre vie. Et en fait, c'est plus là que les gens me disent « Ah, mais ça s'appelle Marcel, mais on commence à te voir toi, on voit aussi Basile. » En fait, c'est ma vie. C'est Marcel, il existe parce que c'est moi qui l'ai mis au monde. Et en vrai, quand Marcel, il fait une collaboration, il est rémunéré. Hein. Donc, il se fait de l'argent, Marcel aussi. J'ai pas le sentiment du tout de me faire de l'argent sur son dos ou celui des enfants. En fait, j'ai envie de dire, les gens, s'ils sont jaloux, qu'ils le fassent aussi, tu vois. Parce qu'en général, si c'est des réflexions comme ça, c'est qu'il y a un peu de jalousie. Mais en tout cas, tout est fait de manière très réglementée. J'ai un agent qui fait mes contrats. Il y a l'agence de mannequinat qui fait les contrats des enfants. Donc, en tout cas, moi, je suis irréprochable là-dessus et rien n'est fait sur le dos des enfants. Parce que c'est encore très, très flou tout ça. Mais c'est aussi pour ça que j'ai décidé de passer par un agent qui fait les choses, en tout cas, voilà, très réglo, tu vois. Et encore l'autre jour, j'ai vu qu'il y a une marque qui a utilisé l'une de mes photos sans me dire. Ah. Et donc, j'ai prévenu mon agent et elle est sur le coup pour voir ce qui se passe à ce moment-là, tu vois. Parce qu'effectivement, tu n'as pas le droit, surtout quand il y a les enfants en photo.
En plus, ouais.
C'est une interdiction totale d'utiliser l'image. Normalement, il faut payer un droit à l'image pour les enfants. Voilà.
Est-ce que tu as des peurs concernant son avenir, que ce soit par rapport à l'orientation scolaire ou par rapport à son inclusion dans la société ?
J'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup les premiers jours, premières semaines, premiers mois. Parce que contrairement donc à un enfant sans handicap, on se projette 20, 30, 50 ans plus tard. Moi, j'ai commencé par Marcel, donc je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose... En fait, Marcel venait à peine de naître que je pensais déjà à ma mort et à la sienne. Voilà.
C'est seulement en cas de handicap que tu te projettes comme ça.
Est-ce que je m'inquiète pour l'avenir ? Eh bien, écoute, le fait est que maintenant, j'essaie de pas trop penser à l'avenir et de voir au jour le jour comment ça avance. Et je vois bien que Marcel, alors certes, il a du retard sur certaines choses, mais voilà, progressivement, ça vient, il progresse, il intègre des choses, il parle de mieux en mieux, il arrive à lire des syllabes. Donc non, il faut avoir confiance en l'avenir. Et puis, ouais, non, tout va bien.
On verra bien.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et donc, ça se passe bien à l'école, tu disais ?
Oui, ouais, ouais. Donc on a déménagé il y a 1 an et demi, on était près de Rennes et on est venu sur l'Orient. Et c'est vrai que même si on déménageait que de 170 km, un truc comme ça, on perdait tout le confort qu'on avait, tout le petit cocon qu'on adorait, qu'on avait mis autour de Marcel, et ça a été un gros stress. Avant de faire une offre sur telle ou telle maison, on voulait être sûr de trouver un quartier dans lequel il y avait une école qui nous semblait bien, une école qui avait déjà une classe Ulysse, même si Marcel n'en aurait peut-être pas besoin tout de suite. Et donc, on a trouvé l'école qui, pour l'instant, nous convient parfaitement. Donc là, il fait son deuxième CP classique, Marcel.
D'accord.
Et donc, il a gardé la même maîtresse et elle est superbe, cette maîtresse. Tu vois bien qu'elle veut absolument... faire en sorte que Marcel progresse aussi. Donc, elle s'adapte vraiment énormément. Tout le monde le connaît à l'école. Puis, c'est une école où, donc, comme il y a une classe Ulysse, les enfants sont sensibles aussi à la différence parce qu'ils sont, entre la maternelle et le primaire, là, ils doivent être une quinzaine d'élèves en situation de handicap. Donc, c'est quand même hyper rassurant, je trouve, de savoir que Marcel a des copains et Marcel est connu et les gens savent qu'il a un handicap, mais ça n'empêche pas qu'il se sente bien à l'école. Et donc, c'est chouette.
Et du coup, est-ce qu'il a aussi une personne pour l'aider ?
Alors, jusque début janvier, il avait une personne à temps plein avec lui, donc 24 heures. Et pourtant, on avait une notification que pour 18 heures, mais comme il y a plusieurs enfants en situation de handicap dans l'école, les AESH arrivaient à tourner et à faire un temps plein avec Marcel.
Oh, c'est génial!
C'était bien, sauf que là, en fait, il y a une nouvelle élève en situation de handicap qui est arrivée en janvier en maternelle et qui a absolument besoin d'être accompagnée, je pense, même pour sa sécurité. Et donc, là, il est repassé à 18h, puisque bah, contractuellement, il a droit qu'à 18h. Et donc, il a une journée le vendredi où il n'a plus d'accompagnement à ESH. Mais du coup, en accord avec l'école et en prévision de l'année prochaine où il sera en CE1 ULIS, le vendredi matin, il peut aller en Ulysse déjà pour découvrir le maître, les élèves, etc. Donc, ça soulage la maîtresse parce que du coup, elle n'a pas à le gérer sans AESH. Et puis, ça nous permet, tout en douceur, de faire une transition vers un CE1 Ulysse pour Marcel.
Et justement, ce choix du CE1 Ulysse, pourquoi ?
Alors, en fait, on aurait voulu, nous, quand on était encore près de Rennes, là, que Marcel fasse un maintien en grande section. C'est quelque chose qui est assez courant, apparemment, quand il y a un handicap. Et alors, pour qui, pourquoi ? Enseignants référents à Rennes et la MDPH de Rennes ont refusé.
D'accord.
Voilà, ils ne voulaient pas. T'es là-bas. Alors, quand même, Marcel, déjà, il est de novembre, donc fin
en
d'année.
Plus, ouais.
Déjà, en plus, il s'est tapé plus d'un an de Covid, donc avec des grosses périodes confinées à la maison. Vraiment, on n'a pas compris pourquoi. Pourquoi il ne pouvait pas faire un maintien. Et en fait, ça s'est fait qu'au même moment, de toute façon, on déménageait. Donc, il a fait son CP. Il s'est bien débrouillé, hein, mais bien évidemment, il n'avait pas le niveau du tout à la fin de l'année. Donc, on a décidé de faire un maintien en CP qui a été accepté. Et en se disant, bah, écoute, on prend ce qu'il y a à prendre. Il progresse encore avec des élèves plus ou moins de son âge, hein, comme il est de fin d'année. Ouais. Et puis après, on fera un CE1 Ulysse pour que les apprentissages sur lesquels, pour l'instant, il a du mal, les mathématiques, c'est pas du tout son truc, et même si je te disais tout à l'heure, il arrive à lire des syllabes, il peut lire un mot complet, mais alors de là à lire une phrase complète, en mettant un sens vraiment à ce qu'il a lu, on n'y est pas encore. Donc pour ça, il sera en Ulysse, et puis bah, dès qu'il y a des projets de classe, je sais pas moi, de danse, des sorties médiathèques, l'anglais, etc., bah là, il pourra peut-être être dans sa classe de CE1.
D'accord, ok, oui, il pourra switcher.
Normalement, c'est vraiment un programme adapté à chaque enfant de l'Ulysse, et en fonction de ses capacités, ses besoins, il passe d'une classe à l'autre, en fait, voilà. D'accord. On verra comment ça se passe, écoute.
Bien sûr. Ouais. Et est-ce que cette idée, tu le vis bien, ça va ?
Ah, on sent la maman qui s'inquiète. Non mais je comprends, parce qu'en fait, il y a quelques années, tu me parlais Ulysse et IME, mais c'était hors de question. En fait, ça fait partie du processus d'acceptation du handicap. C'est que, bah oui, en fait, d'abord, tu acceptes le fait qu'il y ait un handicap, et puis après, bah, tu acceptes que, bah, de fait, il y ait des aménagements et des besoins spécifiques. Et donc, en l'occurrence, là, Marcel, il a quand même des capacités, donc il peut rester dans un circuit scolaire classique, mais il va avoir besoin, il faut être honnête, il va avoir besoin de cette unité locale d'inclusion scolaire pour progresser. Et en fait, maintenant, on a intégré aussi le fait que c'est pour son bien-être, tu vois. C'est vraiment pour lui donner toutes les chances de réussir. Et puis, ça ne l'empêchera pas de continuer à voir ses copains qui s'est fait cette année, puisque c'est la même école, voilà. Mais par contre, il y a encore 2 ans, donc en grande section, on me disait « Non, mais par contre, il peut peut-être faire un CP Ulysse. » Et je disais « Oh, non, mais pas tout de suite, là, je n'étais pas encore, tu vois. »
C'est un cheminement, je pense.
C'est un cheminement, ouais. Ouais. Et en fait, après, ça se fait sans être plus triste que ça. Effectivement, ça marque le handicap. Tu dis, bon, ça y est, ok, Marcel, déjà, il a redoublé. Enfin, il a été maintenu, c'est pareil, attention au terme, hein, maintenu, c'est plus joli que redoublé. Et puis oui, Marcel va aller en classe Ulysse, et une classe Ulysse, bah, c'est pour les enfants à particularité, à besoins spécifiques, et bon, bah, c'est comme ça, voilà.
Quelles sont les choses que tu aurais aimé savoir à la naissance de Marcel et qui auraient pu t'aider et que tu as appris après ?
Bah, j'aurais aimé qu'on me dise qu'il allait comprendre, parce que moi j'avais très peur qu'il comprenne pas ce qu'on lui dise, qu'il comprenne rien. J'avais très peur qu'il ait pas d'humour. J'avais très peur que ce soit un vrai boulet, en fait. Vraiment, tu vois, j'avais des clichés en tête de personnes porteuses de trisomie qui m'avaient marqué, mais forcément, celles que j'avais remarquées, eh ben, c'est celles qui se remarquaient parce qu'elles se démarquaient. La meuf qui se noie dans son truc pour froisser personne. Mais voilà, j'avais vraiment très très peur que, tu vois, genre tu te promènes, il traîne la patte derrière, tu t'arrêtes, il s'arrête. Enfin, tu vois, le côté vraiment poids, quoi. Et donc, j'aurais voulu qu'on me dise, non, mais ça va aller, ça va être un enfant drôle, ça va être un enfant malicieux, ça va être un enfant curieux, volontaire, qui va tout comprendre ce que tu vas lui dire, qui va pas tout vouloir écouter, bien évidemment. qu'on me rassure sur ses capacités, en fait. Moi, je voyais que les limites. Tu me disais trisomie, je voyais les limites, je voyais les incapacités. Et en fait, j'aurais voulu qu'on me dise, même si on me l'a dit très rapidement et je l'ai constaté aussi, mais j'aurais voulu qu'on me dise, mais la trisomie, c'est pas un frein en soi pour vivre heureux d'ailleurs. Et il pourra faire ci, il pourra faire ça, il sera capable de ci, il sera capable de ça, enfin, voilà. C'est comme la carte avec un taux d'incapacité, t'es là, ok, super, 80% quand même, donc ça voudrait dire qu'aux yeux de la société, il est capable qu'à 20%, c'est que dalle. Je trouve que ce terme est pas du tout adapté, ça devrait être un autre terme, tu vois. 80% de besoin d'accompagnement, mais incapacité, t'es là, waouh, ah, c'est violent,
ouais,
quoi.
C'est vrai.
Dire à quelqu'un que t'es incapable.
Il y a certains parents qui ont eu du mal au tout début à faire le dossier, bah, pour cette raison-là, que 80% d'incapacité, c'est pas ce qu'on ressent au quotidien, en fait.
Exactement, ouais, ouais. Moi, je sais qu'on a tardé aussi à le faire, on a mis plusieurs mois. Hein. On l'a envoyé, Marcel, il avait 6 mois, tu vois. Et parce que ce fameux projet de vie, t'es là, mais je comprends pas. Faut que j'écrive quoi ? Quel parent d'un enfant normal doit parler de la vie future de son enfant et de ses souhaits ? Mais je sais pas, moi, juste qu'il grandisse tranquille, foutez-lui la paix.
Surtout à 6 mois. C'est vrai qu'avec l'entrée à l'école, il doit y avoir plus de projets, quoi.
Ouais, mais même des fois, t'es là, attends, on est en décembre, il faut déjà parler de septembre l'année prochaine.
Mais nous, elle nous a dit, la pédiatre, donc là, il a 21 mois, et elle nous a dit, dans un an, à peu près, il faudra décider, donc, est-ce qu'on l'envoie à l'école en septembre 2024, donc à 3 ans passés, ou est-ce qu'on reste à la crèche ? En gros, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, il faudra décider en décembre, janvier,
C'est
pour
ça.
Pouvoir faire le dossier. Et c'est vrai que pour l'instant, bah, évidemment qu'on ne peut rien décider, quoi.
Mm-hmm. Ah ouais, non. Après, moi, juste là, comme ça, tu me dis ça, moi, je te dis, mets-le à l'école, hein. En vrai.
Ouais.
Oh, ben oui.
En fait, moi, j'ai du mal à savoir quels sont les critères qui doivent penser il est prêt ou il n'est pas prêt pour l'école.
bonne question. Bah, sa curiosité, je dirais. En vrai, en plus, il a un grand frère, donc je te dirais, non, 3 ans, franchement.
Et puis, on a quand même encore 18 mois de crèche, là.
Ah oui, 3 ans et demi, ouais, mais oui. Large. Large. Après, en plus, tu connais déjà l'école, donc...
Oui.
Non, il n'y a pas de raison.
Et ils ont déjà régulièrement accueilli des enfants porteurs de handicap.
En plus ?
Ouais.
Mais non, mais pas de raison. Tout va bien se passer.
Mais c'est vraiment ça qu'on a besoin d'entendre, en fait.
Ah
tout
oui,
va bien se passer. Quoi.
Mais oui, mais parce que c'est le cas, en plus. Je ne dis pas que tout est au top, on va dire, tout le temps. Mais de manière générale, si on arrive à ne retenir que les bons côtés, eh ben, il n'y a que des bons côtés, et puis voilà. Non, ça va le faire.
Et qu'est-ce que tu aimerais dire à des parents qui viennent d'apprendre que leur bébé est porteur de trisomie 21 en cours de grossesse et qui sont perdus face à la décision d'accueillir ou de pas accueillir cet enfant dans leur famille ?
Alors, ça m'arrive souvent. Moi, maintenant, je pense que... Enfin, moi, ces derniers mois, là, depuis cet été, j'ai changé beaucoup avant avec les mamans, soit enceintes, soit qui venaient d'accoucher, qui avaient besoin d'échanger. Et en fait, je leur disais, voilà, en toute transparence, les plus, les moins, vers qui se tourner, les difficultés qu'il peut y avoir. Et après, voilà, je leur disais aussi, moi, je l'ai su à la naissance, donc je ne saurais pas vous dire que faire puisque je ne suis pas passée par là. Et puis, chaque choix est personnel. Mais par contre, avant de prendre une décision, bah, bien se renseigner quand même, parce que j'ai l'impression quand même, alors après, c'est par rapport à ce que j'ai pu entendre et lire, parce que comme je te disais, moi, je ne suis pas passée par là, mais j'ai l'impression que le corps médical oriente quand même de manière quasi systématique vers une IMG, mais qui peut finalement être un traumatisme aussi pour la personne derrière, j'en sais rien. Donc, bien se renseigner. Moi, je suis vraiment pas malheureuse avec Marcel et je sais même pas comment j'aurais évolué sans lui, tu vois. Et maintenant, si j'oriente aussi bah, vers l'association M21, tu vois,
oui.
Qui a une plateforme dédiée. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins de personnes à me contacter aussi maintenant en direct, c'est que ils font un super taf aussi, je pense. Après, au début, toute sincérité, mais je l'avais dit à Alice, hein, d'ailleurs, j'avais peur, comme je sais qu'elle est croyante, tu vois, j'avais peur qu'ils orientent les gens aussi à garder le bébé, tu vois, par rapport à sa croyance. Et elle me l'a dit clairement, pas du tout, en fait, parce que même elle sait pas ce qu'elle aurait fait, finalement, si elle l'avait appris quand elle était enceinte. Donc, ouais, non, j'oriente facilement vers M21. Et puis, je dis aux gens aussi qu'il y a plein de comptes maintenant sur les réseaux sociaux, s'ils veulent aller voir comment se passe le quotidien de tout le monde. Et puis... ouais, se faire sa propre idée, je sais pas.
Et oui, mais en fait, c'est exactement ça, parce que je pense que dans la majorité des cas où on découvre pendant la grossesse, il y a beaucoup de gens qui choisissent l'IMG, qui vont pas forcément se renseigner bah, autant que ce qui est possible, mais parce que parfois, on te presse et qu'ils pensent pas.
Je pense qu'il y a une pression de timing aussi, ouais, effectivement. Enfin, moi, je l'aurais su pendant la grossesse, Alors, c'est pareil, est-ce que si tu l'apprends au début, en milieu, à la fin de grossesse, ça ne doit pas être du tout le même cheminement non plus, tu vois. S'il a un prénom, s'il a sa chambre, si... enfin, j'en sais rien. Mais ça doit être un choix très, très dur à faire. Et donc, moi, je suis bien contente de ne pas avoir eu à faire ce choix.
Pareil.
Ouais, non, ça ne doit pas être facile. Mais vu qu'on n'est pas passé par là, je trouve qu'en fait, on n'a aucun jugement à donner non plus. Et ouais.
Et quel message souhaiterais-tu faire passer à des parents qui, comme toi, ont subi le choc après la naissance ?
Bah ça va aller, faut pleurer un bon coup pendant une semaine, un mois, 6 mois, 1 an, je pense que ça dépend aussi des personnes, mais le cheminement finit par se faire, faut avoir confiance en son enfant, et en fait peut-être que c'est de l'autoconviction, mais moi assez rapidement je me dis mais en fait si Marcel est arrivé dans nos vies c'est peut-être pas pour rien, c'est d'une qu'on est capable de l'élever, et que deux, peut-être qu'on a une mission aussi de faire passer un message que bah, la vie continue, que c'est pas grave, ou que ça peut arriver à tout le monde, mais qu'on s'en sort. Donc, ouais, c'est normal d'être triste, franchement, parce qu'on s'y attend pas. C'est un choc, mais ça va aller. Ça va aller. Ça va très bien aller, même.
Oui, la preuve.
Oui.
Merci beaucoup, Carole, pour le temps que tu as bien voulu m'accorder. Et merci pour la visibilité que tu donnes à la trisomie 21, grâce à Marcel. C'est vrai que la médiatisation de nos enfants, ça aide à dédramatiser ce handicap-là, à donner notre voix pour toujours plus d'inclusion.
Exactement. Et si je peux me permettre aussi, je trouve ça très bien qu'il y ait plein de comptes Instagram maintenant, parce qu'en fait, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et quelqu'un qui ne va pas aimer ma façon de communiquer va peut-être aimer la tienne ou va peut-être préférer celle de quelqu'un d'autre. Et je trouve ça super chouette parce que comme ça, on a moyen de toucher beaucoup plus de monde et de sensibiliser de manière très, très large. Et ça, c'est cool. Il y en a, ça va être humour. Il y en a, ça va être avec profondeur. Et donc, voilà. Donc, effectivement, il faut être d'accord avec le fait qu'on utilise parfois l'image de nos enfants. Mais il faut savoir que ça aide, je pense aussi, à plus tard, bah, qu'ils soient mieux intégrés. Enfin, j'ai l'impression que ça joue aussi sur l'inclusion parce qu'on va sensibiliser de manière large. Et donc, après, ça va être normal bah, pour eux d'être vus partout et inclus, etc.
Oui. D'ailleurs, moi, au début, je ne partageais pas des photos de son visage. Mm-hmm. Je me rappelle que soit c'était de dos, soit une main, soit je me coupais au beau milieu du visage. Et vers, je ne sais plus, 3, 4, 5 mois, j'ai décidé que en fait, la trisomie, ça se voit sur lui, sur son visage. C'est vrai que c'est un handicap qui se reconnaît relativement facilement juste avec le visage, avec les caractéristiques. Donc, je me suis dit que pour normaliser tout ça, il fallait lui montrer son joli visage.
Mais oui, non mais ça, je suis en train de le regarder, il est vraiment trop mignon, franchement. Non mais c'est vrai, il a une bouille trop mignon, ouais.
Merci.
Je t'en prie. Et encore une fois, merci à toi pour ton podcast, pour ton temps, pour diffuser comme ça la parole des parents.
Merci Carole pour ton temps également et à bientôt.
À très bientôt. Salut Raphaël.
Salut.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence. Merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt. Et rendez-vous le 21 du mois prochain pour découvrir un nouveau témoignage qui, je l'espère, vous fera sourire, réfléchir et résonnera dans votre cœur. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes et permettre ainsi son bon développement. Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas.